France Culture.
À voix nue, Lisa Vignoli.
Sophie Fontanelle, j'écris.
Troisième épisode, la mode, cette vocation. Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour.
Hier, nous avons évoqué brièvement votre arrivée au sein du magazine Elle et la veille, votre famille arménienne. J'aimerais commencer, avant de parler de ce magazine féminin où la mode a une importance, avec une légende familiale qui se trouve relatée dans votre livre La Vocation, dont on va parler en détail. Votre grand-mère aurait quitté l'Arménie avec, pour presque tout bagage, j'en rajoute encore dans la légende, une page du magazine Vogue glissée dans son soutien-gorge. Le goût pour la mode avait quelque chose de l'héritage chez vous, mais à quel moment le virus est-il venu vraiment vous frapper ?
Alors déjà, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire. On la racontait, une fois c'était le soutien-gorge, une fois c'était la manche. Voilà, une chose est sûre, Vogue était comme un pays, en fait, pour cette famille sans pays. C'était un monde en soi. Au début, ça m'est venu, quand j'étais enfant, en voyant les grandes personnes autour de moi. Les personnes du côté français, elles étaient assez chiques, mais c'était des bourgeois. Ils étaient très habillés comme dans la rue d'Assas, quoi, en fait, hein. C'est pas eux qui m'ont marqué, même si je les admirais. Ce qui m'a marqué, c'est cette famille arménienne qui se faisait, avec les moyens du bord, des vêtements sublimes. Il fallait absolument réussir à ressembler à Catherine Hepburn, après Audrey Hepburn. Mon grand-père s'était fait faire au Caire une veste en lin, et ça lui donnait un air comme ça, levantin, magnifique, des années 30, hein, tout ça en 1960 à Paris. Et donc, il y avait cette idée que on peut s'approprier la mode par la confection, en fait, en se faisant les vêtements. Tout le monde savait coudre dans la famille. Moi-même, je sais coudre. Et voilà, ça m'est venu comme ça. Mais c'était pas la mode. C'était le goût d'avoir de beaux habits.
Elles ressemblaient à quoi, justement, les femmes de votre famille? Elles voulaient ressembler à toutes ces Hepburn, mais elles ressemblaient à quoi? Comment elles étaient habillées? Dans votre souvenir.
Elles avaient beau égrener tous les noms de Veronica Lake, Lauren Bacall, de toutes ces stars, Greta Garbo. En vrai, elles ressemblaient à... Elles avaient un petit côté Anouk Aimée, voilà. Parce que c'est quand on était brune aux yeux marrons, on allait vite se dire qu'on ressemblait à Anouk Aimée. Et elles n'avaient pas non plus le côté, le chien très sexy des Italiennes. Donc c'était vraiment Anouk Aimée. Toutes les femmes de ma famille avaient un côté Anouk Aimée. Moi-même, quand j'étais jeune, j'avais un côté Anouk Aimée. Enfin, Anouk Aimée du pauvre, mais Anouk Aimée. Et on essayait, c'était pas être à la mode, c'était se trouver une dizaine de vêtements dans lesquels on pouvait apparaître. On disait dans ma famille, et j'en ai parlé dans un livre, on disait l'adoration des beaux habits. C'est ma grand-mère qui disait ça avec son accent arménien. Elle disait, nous, on a adoration des beaux habits. Et elle-même... n'étant pas du tout la mieux habillée de la famille, parce qu'elle était habillée comme une veuve, en fait. Veuve de son papa. Encore un bon truc pour la psychanalyse, après. Et j'ai passé des années à m'habiller, à aller m'acheter des vêtements. Enfin, voilà, j'aimais ça, mais modérément. Avec mon premier salaire du Matin de Paris, je suis allée chez McDouglas m'acheter une jupe de cuir. Voilà, j'avais l'impression, avec ma jupe de cuir, d'être super sexy, des petites babies à talons. Ça, c'était mon côté Françoise d'Orléac. Voilà, il y avait des modèles, mais je peux pas parler de mode. Là où j'ai entendu parler de mode pour la première fois, c'est que un jour, d'abord, je voyais au Matin de Paris les filles qui allaient au défilé. Et je voyais bien qu'elles avaient un privilège. Pourquoi je le voyais? Parce que quand je disais « j'aimerais bien y aller moi aussi », c'était, elles me regardaient d'un air de dire « mais tu rêves debout ». Et quand je suis arrivée à Cosmopolitan, pour la première fois, j'ai pu aller à un défilé de mode. Et c'est là que ça m'est tombé dessus.
C'était où?
C'était au Musée des Beaux-Arts. J'allais directement backstage, parce qu'à l'époque, les shows, il y avait un accès très facile, en fait. C'était pas comme maintenant. Et je suis allée à un défilé de Martine Sidbon. Je suis arrivée dans ses coulisses Et je me souviens, je revois ma position, je vois où j'étais, de m'être arrêtée à l'entrée. Sur la gauche, il y avait une petite estrade. Dessus, il y avait un homme sublime qui était le mari de Martine Sidbon, Marc Ascoli. Il était beau, on aurait dit Alain Delon. Et il était en train d'arranger des vêtements sur une jeune femme. Il y avait des filles en culottes qui essayaient des vêtements. Il y avait des portants. Et il y avait des gens qui s'affairaient de tous les côtés. Et j'ai vu le show depuis la coulisse. Et j'ai l'impression que je voyais un opéra. J'avais jamais vu d'opéra en vrai. Mais c'était tellement beau. La musique, ces gens qui passaient avec une conscience d'eux-mêmes. À l'époque, on surjouait. C'est pas comme maintenant où les défilés, on a l'impression que les gens marchent un peu comme s'ils étaient à l'abattage. Là, elles marchaient avec leur personnalité marchait avec elles. Elles étaient fantastiques. Et j'ai été éblouie. Je suis rentrée au journal et j'ai dit à la patronne de journal, rédactrice en chef, Juliette Boirivaux, j'ai dit, mais je veux vivre dans la mode. Et elle m'a dit non, ce serait du gâchis. Parce que vous savez écrire, vous allez continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire des papiers sur la manière dont nous vivons nos vies sentimentales. Oh, j'avais l'impression d'être punie.
Mais qu'est-ce que vous avez répondu
Au lieu de me vexer, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, il y a un pont à faire entre les vêtements et la littérature. Ce pont, il existe chez Proust, qui décrit ça merveilleusement, mais souvent, il n'est pas là, ce pont. Souvent, la manière dont les vêtements sont décrits dans les livres, elle n'est pas géniale. Donc, je me suis dit, il y a un dédain de la littérature pour le vêtement, et il y a une incapacité des gens qui s'occupent du vêtement à atteindre une quelconque littérature en parlant des vêtements. C'est arrivé, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais c'est très rare. Voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a une place à prendre.
Vous avez fini par écrire sur la mode, mais ça n'est pas arrivé tout de suite parce que au magazine Elle, de la même façon, quand vous y êtes arrivé, vous avez constaté que le journalisme de mode, les journalistes de mode, c'était vraiment garder leur précaré et que donc là aussi, vous essayiez de mettre un premier pied dans ce monde et que c'était compliqué.
C'était très difficile. Alors pour deux raisons. D'abord, comme on disait dans ma famille, pas folle la guêpe, hein. C'est-à-dire que les filles qui faisaient ça, elles n'avaient aucune intention de laisser des gens arriver elles savaient très bien que c'était génial de faire ça, que c'était amusant, vivant, que ça change tout le temps, parce que la mode ça change tout le temps, c'est divertissant. Bon, ça c'est une première raison, et la deuxième raison c'est que la manière d'écrire sur la mode était très codifiée, et moi j'écrivais déjà de manière pas codifiée, déjà je faisais Fonel et Bianca, donc je me suis dit je vais pas y arriver, parce que ma manière d'écrire, elles avaient l'impression que c'était pas du journalisme de mode. Alors j'ai créé un blog, et j'ai écrit à ma manière, et ça a eu tout de suite un succès fou, et ce succès fou c'est ça qui m'a ouvert les portes du journal.
Qu'est-ce que ça veut dire, à ma manière, sur la mode? Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que votre façon de faire a apporté de nouveau qui ne se faisait pas, justement, dans cette façon de faire très codifiée?
Mais déjà, quand on faisait un blog, en général, il y avait une photo. Donc déjà, je mettais les vêtements sur moi. J'allais au showroom et puis au shopping, on appelle ça dans les journaux, là où il y a tous les vêtements. Puis je les mettais sur moi, puis je les essayais, puis je racontais ce que ça me faisait de les porter. Il y avait de l'incarnation. Et ensuite, j'ai commencé sur le blog à dire « je », évidemment. Les blogs, c'était « je ». Et donc, je disais, il y a ça, j'aime ça, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça, j'ai commencé à parler de mon ressenti. J'ai apporté de la vie là-dedans, il n'y en avait pas. Tout le monde disait, on écrit encore comme ça. Alors, quand on voulait dire « je », on disait « on le veut toutes ». Je trouvais ça débile, et continue de trouver ça débile. Je pense que beaucoup de magazines féminins perdent des lecteurs, et ils en perdent beaucoup, et surtout, ils n'arrivent pas à avoir des nouveaux lecteurs, parce qu'ils sont ils n'ont pas compris qu'en fait, la mode, c'est ce qu'on met sur notre peau, c'est sur l'épiderme, c'est lié à l'incarnation. C'est pour ça que les influenceurs ont pu se déployer.
Et est-ce que le monde de la mode vous a tout de suite considéré? Parce qu'il y a aussi ces journalistes de mode qui ne veulent pas céder leur précaré. Et de l'autre côté, il y a aussi une industrie de la mode qui peut-être ne prend pas forcément au sérieux, prend au sérieux ce qui est écrit, vous savez, dans le magazine, surtout à l'époque, dans le magazine Elle, dans le journal imprimé, dans le print, comme on dit. Et est-ce qu'on vous prend au sérieux quand vous écrivez, vous, sur votre blog?
À l'époque, je m'en fiche qu'on ne me prenne pas au sérieux. Non, c'est un long chemin pour que le monde de la mode vous voit que vous existez. C'est un monde très fermé. Hein. C'est vraiment presque une secte. Mais moi, je m'en fiche parce que ce que j'ai, c'est du public. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à faire un blog, le journal Elle arrête le courrier des lecteurs. C'est-à-dire qu'il n'a plus de contact avec ses lecteurs. Maintenant, il en a de nouveau parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais à ce moment-là, il n'y en a plus. Et moi, j'arrive et j'ai un contact direct avec les lecteurs. Et les lecteurs, les lectrices...
Qui vous écrivent?
Elles m'écrivent tous les jours. Donc, elles disent qu'elles pensent aussi d'autres articles du journal. Donc, je suis un lien entre les lectrices et le journal. J'ai pas réfléchi à ça au début. C'est après, maintenant, c'est en regardant ça, je me dis, mais c'est drôle, j'ai commencé à créer ce lien au moment où on arrêtait le courrier des lecteurs.
Et vous avez l'impression que, justement, en fait, les lecteurs, les lectrices avaient ce besoin de réagir à une façon de traiter la mode qui, en fait, n'était pas faite vraiment pour eux.
En fait, les gens voulaient du lien, ils voulaient des conseils. Ça, c'est sûr, mais ça, moi, j'en donnais, puisque comme je montrais ce que je m'achetais, par exemple, donc je racontais pourquoi je m'étais acheté quelque chose. Donc, ils avaient besoin de ça, de conseils, d'être d'accord, pas d'accord, de savoir, je sais pas, des choses que les magazines féminins ne disent pas. Personne ne disait aux gens des astuces de friperie ou aller s'acheter des choses. Ça n'existait pas, en fait. Il y avait un vide immense. Et les blogueurs... Au début, c'était des blogueurs, ils sont arrivés dans ce vide, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est venu après. Parce qu'après, il y a eu Instagram.
Et donc, petit à petit, vous écrivez, puisque votre plume dans ce domaine-là prend de l'ampleur, vous écrivez dans le journal sur ce thème-là. Vous prenez votre place.
J'ai trouvé des moyens d'arriver dans le journal avec ma manière d'écrire. J'avais créé quelque chose qui s'appelait les conseils à Mireille. Et conseil à Mireille, c'était voilà comment Mireille fait, parce que j'en ai plein des Mireilles dans ma famille. Donc Mireille, elle s'achète un pantalon et elle prend sa taille. Et donc je disais, conseil à Mireille, et là je lui disais, essaie de prendre beaucoup plus grand, pas juste une taille au-dessus, essaie de prendre vraiment immense. Essaie avec le pantalon de quelqu'un que tu connais qui a un grand pantalon. Mets une ceinture, arrange-toi pour que ça tienne juste sur tes hanches. Ça a marché jusqu'au moment où une secrétaire de rédaction dans le journal a dit qu'elle était vexée parce que elle-même, elle était Mireille. Elle faisait toutes ses erreurs et que donc je me moquais d'elle. On était déjà au début des gens indignés. Donc il a fallu arrêter Mireille. On pouvait plus.
Mais vous avez trouvé autre chose,
j'ai trouvé. Je disais, je vais prendre des bottes importables de Prada, mais sublimes, des espèces de cuissardes, et je vais faire 24 heures dans une paire de cuissardes. Mais au lieu de le faire vraiment, c'est-à-dire de raconter vraiment comment c'est, comment on se sent, avec quoi on peut le mettre. Je faisais un truc complètement fou qui aboutissait à aller à un meeting politique. Enfin, je faisais un énorme délire. Voilà.
Un croisement de Fonel à rencontrer la mode, en fait.
Je le traitais par l'absurde. Je pense que la mode, si on traite juste ça en disant voilà, c'est ça qui est à la mode, faut pas s'étonner que les gens, ça les intéresse pas.
Et puis donc le temps passe et puis vous finissez par être nommée un jour. La directrice du journal qui s'appelle Valérie Thoragnan vous nomme directrice de la mode. Donc pour la jeune femme qui s'était acheté une jupe McDouglas, c'est un peu le Graal d'être nommée directrice de la mode à ce moment-là. Est-ce que ça vous rend heureuse ?
Ça m'a rendue heureuse 5 minutes 22. Et puis ensuite, j'ai vu les difficultés parce que j'ai tout de suite dit, je me souviens pour une série de mode, j'ai dit, on avait du mal à trouver des photographes, les bons photographes, c'est très très difficile à trouver. Donc j'avais dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un appareil photo. Il y avait déjà les iPhones et on va donner un appareil photo à la mannequin et elle va se prendre en photo elle-même. Dans le studio, on va tout organiser, elle va faire elle-même les photos, elle va elle-même se faire ses looks, etc. Enfin, on va l'aider à faire ses looks. Alors là, ça a été jamais, jamais on fera ça, jamais, il faut un photographe, il faut absolument un photographe, si on n'a pas de photographe, le journal, il est mort, et puis ça va être moche. Enfin, je les ai crus jusqu'à ce qu'un jour, j'aille interviewer Peter Knapp, qui a été, lui, un grand directeur artistique de Elle, le plus grand. Et lui m'a dit, tu es heureuse à Elle? J'ai dit, oui, mais... Et puis je lui raconte ce que je viens de vous dire. Et il me dit, mais Mais comment elles ont pu réagir comme ça? Parce qu'il figure-toi qu'il dit, moi, un jour, il y avait une prise de vue, je ne pouvais pas y aller parce qu'il y a eu un problème et je devais rester à la maquette du journal pour résoudre le problème. J'ai dit qu'on donne un déclencheur à la mannequin et qu'elle se prenne en photo elle-même. Il dit, c'est une de nos photos mythiques, elle est dans tous les musées maintenant. Ah, ça m'a fait du bien qu'il me dise ça. Je me suis dit, voilà, on vous met des barrières, puis on met du temps à comprendre que c'était une barrière débile. C'était une barrière qui n'aurait pas... Il aurait fallu que je lutte, mais je n'arrivais pas à lutter contre... On ne peut pas lutter contre un journal. C'est impossible.
Et contre une industrie aussi qui a beaucoup... l'industrie de la mode a son mot à dire dans la façon dont la mode est traitée dans les journaux aujourd'hui, avec la pub qui est engendrée dans ces magazines.
Alors, le métier était déjà, quand j'étais directrice de la mode, était déjà très difficile. C'est qu'il y a un outil qui s'appelle le DMR. Personne n'a jamais aime bien parler de ça, mais parlons-en. Et qui est un outil qui va calculer quel est le quota dans votre journal, quelle place vous accordez aux gens qui mettent de l'argent ou pas dans votre journal. Donc, les gens qui mettent de l'argent, à un moment donné, vous disent « Moi, tu m'as accordé telle place, qui calcule en centimètres, hein. Tu m'as accordé telle place, mais je vois qu'un tel qui ne donne pas d'argent dans ton journal, tu lui as accordé aussi cette place. Donc je divise la place. Je considère que tu ne m'as pas donné 2 centimètres carrés, tu m'as donné que 1 centimètre carré, puisque tu as parlé aussi de quelqu'un qui ne donne pas d'argent à ton journal. Je pourrais en parler des heures, mais ça va embêter tout le monde. C'est pour dire que c'est une histoire d'argent fondamentale. La créativité là-dedans, elle est quasi morte, en fait. Et elle existe encore un peu, hein. Bien sûr, il y a des gens, ils se battent, hein, les gens dans les journaux, mais elle est quasi morte.
Et donc vous, vous êtes battue ce temps où vous étiez directrice de la mode, au L ?
Mais je ne pouvais pas me battre contre ça, c'était impossible. Mmh. En fait, ma manière de me battre contre ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que les marques vous obligent à parler d'elles dans votre journal, et sinon, par exemple, elles ne vous inviteraient pas, ou sinon, elles ne mettraient pas de publicité dans votre journal. À partir du moment où vous avez une indépendance et vous avez un compte influent, un compte Instagram influent, ben, ils vous invitent pas si vous voulez, c'est eux qui perdent quelque chose.
Bien sûr.
Ben, ils ont intérêt à ce que vous parliez d'eux. Donc, tout le rapport de force se modifie.
Quand je vous entends parler de ce fameux DMR, de ce milieu, de ces coulisses, en fait, de la mode et du journalisme de mode, je me demande à quel moment vous allez écrire votre grand livre sur la mode. Est-ce que vous êtes en train d'emmagasiner pour un jour nous livrer ce livre qui nous racontera ce vrai monde avec un regard, je dirais, objectif, sincère, et un regard un peu presque sémiologique, un peu à la Roland Barthes sur... cet univers ?
Alors, j'ai déjà un peu essayé de le raconter, mais en loose dé, comme on dit. Ça veut dire en douce, hein, pour ceux qui ne savent pas. J'ai essayé d'exprimer tout ça dans un livre qui s'appelle « La vocation », où je raconte la différence entre l'amour de ma famille pour le vêtement et ce milieu qui est quand même vraiment, vraiment lié et très mercantile. C'est comme deux aspects d'un même monde. Hein. Il y a la passion d'un côté et l'argent de l'autre. Maintenant, le vrai livre sur la mode, celui qui vraiment raconterait tout ça, pourquoi je l'écris pas encore ? Parce que j'ai peur d'être méchante. Et que toute ma vie, ça a été... ça vient aussi de mon éducation. Hein. Si quelque chose est vraiment très méchant, ne le dis pas. Et il y a quelque chose d'horrible dans l'industrie de la mode. De diabolique. Alors on peut pas l'écrire. Si on l'écrit, on fait un livre méchant. Faut attendre d'avoir digéré tout ça. Il y a dans la mode, par exemple, une femme qui s'appelle Anna Wintour, qui est une des personnes les plus puissantes la personne la plus puissante de notre industrie, dit-on, parce que c'est un peu aussi autoproclamée. Elle dirige Condé Nast. Cette femme, si je me mets à parler d'elle, je vais être tellement dure. C'est pas le moment. C'est pas dans ma nature et c'est pas le moment.
Vous parlez de la dureté de ce milieu. Vous avez passé 12 ans au sein du magazine Elle, où vous êtes allé jusque donc à la direction de la mode. Vous avez fini par être licencié à contre-cœur, j'imagine, ou le cœur serré en tout cas. À ce moment-là, vous êtes une femme de 53 ans. qui a passé 12 ans dans une maison qui était un peu la sienne. Est-ce que vous êtes inquiète quand ça vous arrive ?
Non, j'ai aucune inquiétude. J'ai quelque chose, peut-être pour la première fois de ma vie. Ça fait bizarre d'être licenciée d'un endroit où on est la personne la plus populaire, en fait. Je suis à ce moment-là la seule journaliste à être sur les réseaux sociaux vraiment, à y être connue. Je suis un peu la vitrine du journal. Je pense que j'ai été licenciée tout simplement parce que j'étais directrice de la mode. J'avais un poste tellement important que quand on change, on target le poste, on le cible. Et donc, j'ai été virée pour ça. Mais j'ai souffert tout simplement pour une phrase, c'est qu'on m'a dit que j'étais trop vieille. Mais en même temps, faut se méfier avant de tout de suite se poser en victime. Faut toujours se méfier de ces choses-là parce que si ça se trouve, il y a un trésor dedans. Et une semaine plus tard, j'ai laissé pousser mes cheveux blancs. Et je me suis rendue, au lieu de tomber dans l'oubli, me suis rendue reconnaissable par, pas seulement la France, par dans le monde entier, en fait. Donc, mon livre a été traduit dans plein de pays. Parce que j'ai écrit un livre à partir de ça qui s'appelait Une apparition, qui raconte exactement ce que je suis en train de vous dire. Alors, d'une petite phrase, j'ai fait un océan de liberté, quoi.
Est-ce que vous êtes dit, je me ferai plus jamais piéger comme ça ?
Disons que l'année où j'ai été directrice de la mode à Elle, j'ai perdu toute ma liberté. Il n'y avait que des gens caractériels, avec qui maintenant je suis très amie, mais dans les relations de travail, des gens caractériels qu'il fallait gérer, j'avais des contraintes publicitaires épouvantables, enfin voilà, c'était un cauchemar. Donc effectivement, je me suis dit, plus jamais ça. J'ai retrouvé ma liberté instantanément puisque je suis entrée au Nouvel Obs où, de nouveau, j'ai eu une chronique et du temps libre. Donc, j'ai retrouvé tout de suite ma liberté, quoi. Et surtout, quand je suis arrivée au Nouvel Obs, j'ai pu écrire sur la mode exactement comme je le voulais dans un journal. Parce que là, c'était plus les réseaux sociaux, c'était plus un blog, il n'y avait plus de blog. C'était vraiment dans le journal et c'est tellement important, aussi dans un journal de gauche comme ça, où la mode est dédaignée, où on a l'impression que c'est quelque chose pour les riches, que c'est une machine Afrique, ce que c'est aussi, de tout d'un coup arriver en disant « mais attendez, il y a là-dedans des choses qui sont très importantes, il y a des outils d'émancipation, il y a du progrès en fait, il n'y a pas que du mercantilisme ».
Et aussi, dans un journal, je repense à cette remarque qui vous avait été faite un peu plus tôt dans votre vie, d'écrire sur la mode dans un journal sérieux, entre guillemets.
Alors, il y a des gens, des universitaires, beaucoup d'universitaires qui écrivent sur la beauté et la pertinence de cette futilité, déjà. Il y a aussi tous ceux qui travaillent, historiens de la mode, sur à quel point tout cela a un sens. Donc, tout ça existe. Mais le fait même qu'il y ait eu des magazines féminins, et Dieu sait si ça a été important, hein, ça a fabriqué, c'est un truc de bonne femme en fait. Ça a fabriqué ça. Et puis ensuite, quand la mode masculine, qui est en ce moment en pleine explosion, est devenue aussi importante que la mode féminine, il y a eu des gens pour considérer que c'était un truc d'homosexuel, avec un petit dédain, comme si les femmes et les homosexuels étaient unis dans un même dédain. Moi, je pense pas du tout comme ça. Je pense que et puis les jeunes générations hein, qui... Je parle comme une vieille mémé. La jeune génération, elle a bien compris qu'en fait, mode masculine, mode féminine, c'était la même chose, c'était la même liberté. Qu'est-ce que c'est la mode si c'est pas la liberté ? Et comme quand on ne parle que de l'argent et quand on ne montre que des marques de luxe, à ce moment-là, on voit l'inverse de la liberté. On a l'impression que c'est nous donner envie de choses qu'on ne peut pas s'offrir. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est que il y a des gens, des artistes dans ces maisons qui imaginent une émancipation sans relâche. Ils le font de saison en saison, ils imaginent une émancipation. Parfois, ils se trompent et tout d'un coup, de nouveau, il y a une contrainte horrible. Mais en général, ils imaginent une émancipation. Ça, il fallait écrire ça dans des journaux, on va dire, sérieux, pour que ça passe. Mais maintenant, ça y est. Des journaux comme Le Figaro, Le Monde, comme l'Obs, le font, en parlent. Et on a réussi à vraiment faire passer ce message.
Et vous, vous sentez, par exemple, au sein de... Enfin, alors, c'est votre poste actuel, votre fonction actuelle, donc ce serait, peut-être que vous ne pourrez pas forcément me répondre très librement, mais est-ce que vous sentez parmi les journalistes de la rédaction de l'Obs, est-ce que vous les sentez très ouverts à ça? Ou est-ce qu'ils ont encore un tout petit peu ce regard qui peut être un peu dédaigneux parfois?
Alors déjà, le Nouvel Obs, j'y vais rarement. Mais quand j'y vais, je sens plutôt qu'ils sont heureux que je sois là, parce que je suis belle joueuse et que tout ce que j'ai pu construire de popularité sur les réseaux sociaux, le fait que j'appartienne, je sois classée dans un classement mondial sur les personnes influentes en mode, des choses comme ça, tout ça, ça va avec le fait que jamais je ne manque de parler de l'Obs. J'ai partagé la petite aura que j'ai réussi à avoir, je l'ai partagée avec eux. Donc ça, ils le savent. Maintenant, je remarque que quand Anouk Aimée décède, j'ai pas toujours un coup de fil pour me dire est-ce que tu voudrais pas nous parler de ce que ça veut dire vestimentairement Anouk Aimée. Ils y pensent pas forcément. C'est pas qu'ils pensent pas à moi, attention. C'est qu'ils pensent pas forcément que Anouk Aimée, c'est aussi des vêtements. Ils y ont pensé pour Françoise Hardy. Donc ils y pensent une fois sur deux, je dirais. Mais les gens qui sont des icônes, mais hommes ou femmes, hein, y a toujours un lien aux vêtements, en fait. Ça participe de leur être.
Vous avez trouvé un nouveau refuge, en fait, en quelque sorte, avec l'Obs, quand vous avez quitté le magazine Elle.
J'ai trouvé un endroit journalistique, moi qui ne me vois pas du tout comme journaliste, qui n'est pas la carte de presse, j'ai trouvé un endroit journalistique où je peux exister comme quelqu'un d'un peu à part. Ça vaut de l'or. Parce que on me demande pas, si vous, d'ailleurs, quand on me demande de faire une enquête, tout d'un coup, on me dit, est-ce que tu voudrais pas interviewer des gens pour savoir ce qu'ils pensent? Je dis non, mais interviewer, à part si c'est pour aller voir un créateur et lui demander pourquoi il crée, ne me demandez pas, quoi.
Mais pourquoi? Est-ce que vous savez à quoi ça tient, cette idée de toujours vouloir écrire à partir de ce qui est à l'intérieur de vous et pas forcément d'aller chercher chez les autres?
Je vais chercher chez les autres quand même, mais j'ai pas besoin. Comment dire ça? Il y a tellement de gens qui cherchent des informations et qui les trouvent. Et il y a tellement peu de gens qui se demandent juste ce qu'ils voient. Et donc, moi, je travaille dans la mode, je travaille dans un autre secteur, je ferais pas ça, mais qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que ça me fait? Il se trouve que c'est important de le dire. Parce que tout le monde se reconnaît là-dedans.
Merci Sophie Fontanelle.
Merci.
Au cours de notre prochain épisode, demain donc, nous parlerons de votre image et de ce réseau social qu'est Instagram et qui vous a offert un rebond et ouvert un monde nouveau.
Merci, au revoir.
À demain. C'était À Voix Nue, réalisation Marie Placé, prise de son Yvan Turc, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Lisa Vignoli, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.